Bienvenue sur le podcast. Le podcast de Trouver Objet Caché. www.tentacules.net. Le site francophone dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. À vous les poulpes.
Bonsoir, je m'appelle Von.
Bonsoir, je
m'appelle De Marigny.
Bonsoir, De Marigny.
Bonsoir, je m'appelle Carter.
Bonsoir, Carter.
Bonsoir, je m'appelle Yoda.
Bonsoir, Yoda.
Ce qui nous réunit tous ce soir, c'est qu'après avoir travaillé pendant un an et demi sur les masques, où nous venons en parler, il faut exorciser ces démons. Le petit enfant n'est pas là.
Attends, si on a dû mettre au fond à côté de l'eau.
Si nous sommes tous réunis ce soir, c'est pour que nous puissions entamer, chacun, un travail de rémission. Après un an et demi, dévoué à une cause qui aurait pu nous paraître juste au départ. Elle était telle. Nous allons tous en parler. Tous mettre dans un petit sac ce que nous avons à évacuer et le jeter.
Non, déconne. Vous avez, très certainement, si vous êtes là encore ce soir, entendu le premier podcast, hein, messieurs.
Ah ouais. Là, vous entrez la méthodologie.
Vous êtes encore chez moi, tous les quatre.
Comment ça se... Il y a encore en arrière. On n'a pas fini.
On n'a pas fini. Il reste des petits enfants. Donc, si nous vous proposons un nouveau podcast qui va parler des masques, c'est pour compléter celui qu'on a dû mettre en ligne normalement il y a de cela quelques semaines, mois, enfin, le temps qu'il aura fallu pour que la campagne sorte. Et là, pour être très clair, hein, on va vous laisser un petit temps d'arrêt à ceux qui ont pris ce podcast sans savoir ce que c'était, car nous allons dévoiler pas mal de choses sur la campagne, on est tous d'accord.
Ouais, c'est vrai.
Les dessous de la campagne, sur quoi on a vraiment travaillé, les vrais ajouts, les vrais modifs, nos questions, les questions auxquelles on a répondu, mais là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc
le contenu.
Le contenu, ouais. Les secrets, on va vous laisser facile une bonne minute pour vous éloigner du poste.
Amis joueurs, investigateurs. Hein.
Barrez-vous, dégage. Allez,
pile, casse-toi.
Ça y est, ils sont partis.
Attends, je m'entends dans l'oreille, je sais pas. Ouais, non, je crois que c'est
bon. Bon. Alors, donc voilà. Sur quoi on est parti, c'est assez simple, là, pour rentrer dans le vif du sujet. Les masques, la façon dont c'était fait à l'origine, c'était une campagne complètement linéaire. On arrive à New York, on défonce la porte. Voilà. Et après, les événements, on est d'accord, vont s'enchaîner de façon un peu guidée. On doit faire Londres, enfin on doit faire New York, après New York c'est Londres. De Londres, on vous conseille discrètement d'aller au Caire, puis à Nairobi. Si vous avez acheté les terrains australis, direction l'Australie. Et tout le monde finit bien tranquillement à Shanghai, sur l'île du Dragon Gris, à déployer avec Peignou et son horloge magique. Donc, on vous en avait parlé dans le premier podcast, le but c'était de délinéariser la campagne, donc on va vous expliquer un peu comment on a procédé pour, modifier le contenu en lui-même. Sachant qu'on peut, on va commencer par le début, hein, ce podcast va être assez chronologique, on va commencer par l'introduction. Vous saviez que dans la version boîte, donc, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu, dans la version boîte, il y avait donc le petit recueil introductif qui reprenait les éléments qui allaient se dérouler dans la campagne, qui, ma foi, aidait, mais était assez, assez léger.
Voilà, un petit feuillet, hein, 4 pages. Hein.
Ouais, c'était ça. Voilà.
Donc, juste très rapide, un petit résumé, les personnages principaux et destination chapitre 1.
Déjà, ce qui était censé se passer, c'est la linéarité était déjà donnée dans ce petit manuel, vu qu'on savait comment ça allait se passer.
Ouais, je crois même que ça racontait juste en fait l'histoire de l'expédition Carlyle avant sa disparition.
Ouais.
Et ça n'expliquait pas en fait véritablement ce qui allait se dérouler pendant les différents scénarios.
Voilà, il y avait un petit morceau sur les plans de Nyarlathotep, je crois, mais c'était tout. Donc, nous, le premier chapitre qu'on a voulu poser, donc le chapitre introductif, déjà, on va reprendre les éléments qui vous avaient été donnés dans les premières versions de la campagne, c'est-à-dire le contexte, ce qui s'est passé pour l'expédition, et dès cet instant-là, on a commencé à retravailler, notamment pour une des personnes, un des PNJ les plus importants, dont le trajet
n'avait pas été complètement, j'irais décrit et maîtrisé.
Voilà, donc là, il s'agit effectivement de Jackson Elias.
Le fameux.
Le fameux cadavre de l'hôtel Chelsea. Donc effectivement, où il n'y avait pas du tout d'historique qui était présent précédemment. C'était juste en filigrane de chapitre en chapitre. On apprenait en fait ce qu'il avait fait à chaque fois. Donc c'est vrai que c'était assez décevant parce que la part du gardien, s'il y avait vraiment volonté de comprendre ce que Jackson Elias lui avait pu découvrir, les éléments, enfin d'où il avait tiré les éléments et comment ils étaient après fournis aux joueurs, ben, il n'y avait quasiment rien où il fallait tout fabriquer.
Et surtout que dans le fond, c'est un peu la trame, c'est la trame même du scénario, parce qu'on est sur la piste de ce fameux Jackson Elias avec ce que vous savez sur Jackson Elias.
Voilà, et les joueurs partant du matériel qui est amené par Jackson Elias ben, vont naturellement aller à la chasse aux endroits que Jackson Elias a lui-même visité.
Donc, dans la nouvelle version, on a un
chapitre.
Un chapitre, voilà, qui explique finalement la chronologie des voyages de Jackson Elias, ce qui l'a mené à arriver finalement désespéré à New York après avoir retracé un peu l'expédition, après être remonté aux origines du mal. Donc, première chose, on vous explique ça vous évite juste d'avoir un pauvre petit paragraphe qui est censé vous lancer quand même dans une campagne qui va durer plusieurs dizaines d'heures. Mais on ne s'est pas arrêté à ça parce que on a voulu, permettre à des équipes différentes d'attaquer la campagne en leur donnant des motivations. Là, la première motivation qui a été donnée, c'était le télégramme pour le faire venir à New York.
Ça, c'est l'introduction classique, on va dire, de tous les scénarios de l'appel de Cthulhu. C'est mon oncle est mort et il faut que j'aille récupérer l'héritage. Ou bien un ami m'envoie un télégramme et zut, il est mort.
Il me demande de le retrouver et finalement, il me demande un peu de sortir de nulle part, de réunir une équipe un peu improbable.
Tout abandonner de ma vie courante et puis de partir en chasse.
Après, finalement, quelque chose que lui-même n'a pas vraiment trouvé et duquel il laisse quelques pistes, quelques indices, mais sans plus.
Ouais, c'est exactement ça. Et donc, du coup, on a essayé justement un peu de casser cette linéarité et ce côté un peu cliché, comme ça avait été évoqué à l'instant, qu'on pouvait constater dans de nombreux scénarios de l'appel de Cthulhu, pour proposer déjà différentes approches, en fait, pour introduire, en fait, les investigateurs dans la campagne.
Alors, être approché par exemple par un groupe d'investisseurs, parce que tout tourne autour de la famille Carlyle, une famille donc richissime. Donc il y a la possibilité qu'un groupe d'investissement veuille savoir ce qui est arrivé, ce que c'est ce fameux Jackson Elias. Au lieu d'en faire une victime un peu malgré lui, on peut tout à fait le remettre au centre du scénario comme finalement le détenteur de secrets qui pourrait mettre en péril des gens, des choses comme ça.
Voilà, ce qui se justifie par le fait que quand Jackson Elias revient aux États-Unis, en fait, il est en train de prouver que Carlyle n'est pas mort. Et donc à partir de ce moment-là, tout ce qui a été annoncé, l'héritage qui a aussi été récupéré par sa sœur est remis en cause.
Donc, on vous en donne une, mais il y a plusieurs possibilités de démarrage. On arrivera quand même, je dirais qu'on arrivera quand même au scénario de New York, mais par différentes approches, que ce soit des approches d'enquête, des approches d'amitié avec Jackson Elias, ou par tout autre, je dirais, tiers qui veut enquêter sur cette affaire et ce type qui revient un peu nulle part avec des informations.
On s'est basé également sur d'autres PNJ du chapitre de New York pour pouvoir introduire les investigateurs dans la campagne. Il y a différents procédés tels que Jonah Kensington des éditions Prospero Press ou le lieutenant Martin Poole de police qui pourrait être un collègue de police d'un des investigateurs qui enquêterait sur les meurtres les meurtres rituels qui ont lieu à New York depuis plusieurs mois qui sont proférés par la secte de la lampe sanglante locale basée à New York. Voir également d'autres pistes afin de vous permettre justement de pouvoir vous retrouver avec différentes approches d'investigateurs si ils ont des profils un peu hétéroclites entre eux ou effectivement gérer un groupe comme ça avait été évoqué.
L'idée c'est de justifier et de rendre crédible l'introduction d'un groupe d'investigateurs qui peuvent être différents, d'horizons différents, pour leur donner une raison valable de se lancer dans l'aventure qui va les mener dans des voyages internationaux.
puis ouais, il faut pour leur donner déjà une vraie cohérence, même s'il n'y a pas eu encore de scènes d'action ou de scènes, je dirais, pour les souder entre eux. Mais on ne s'arrête pas là, dans ce chapitre. On va vous donner aussi beaucoup de conseils sur la façon de maîtriser la campagne d'une façon un peu globale, c'est-à-dire comment gérer le départ de quelqu'un pendant la campagne, comment gérer l'arrivée d'autres personnes, comment gérer une équipe de débutants, comment gérer la fameuse mortalité des muscles de manière totale. Enfin, je dirais qu'il y a, beaucoup de points qui vont être explicités, abordés, et beaucoup provenant notamment de nos expériences de jeu, de maîtrise sur les difficultés ou même ce qu'on a pu recueillir, vous-même qui écoutez ce podcast avez peut-être noté dans un forum, toutes les idées qui nous semblaient nécessaires à l'introduction de cette campagne. On a bien sûr rajouté les événements qui se déroulaient pendant ces années-là. On a le descriptif des différents PNJ principaux, hein, comme il y avait à l'origine. Donc tout ça fait une compilation assez dense et qui permet de se plonger de plein pied dans la campagne. Bon.
On retrouve aussi tous les éléments qui sont liés à l'expédition Carlyle qui existait déjà précédemment, avec toutes les différentes étapes, ce qui s'est produit avant l'arrivée aussi de Jackson Elias. Et donc un peu toutes les intrigues qui commencent à se nouer et qu'ensuite les investigateurs vont devoir arriver à découvrir.
Voilà, d'ailleurs on vous met en toile de fond aussi les plans de Nyarlathotep et un peu, je dirais, le contexte du mythe autour de la campagne. Et tout cela, bien sûr, pour vous lancer tout de même. Hein, on veut bien briser la linéarité, mais on va dire qu'attaquer par New York, c'est quand même plutôt conseillé.
Clairement. Hein, puisque...
Ça serait délicat de commencer par Shanghai ou Shanghai.
Nous sommes d'accord.
On n'a pas retourné la campagne jusqu'à ce point-là. Mais on arrive à New York, je dirais, avec plus de choses, notamment concernant, je reviens sur l'édition Carlyle, on vous propose par exemple l'idée de donner au fur et à mesure, soit envoyé par mail, les articles concernant l'expédition au fur et à mesure à vos joueurs pour faire monter l'ambiance et pour arriver sur un chapitre de New York où vous ne trouvez pas à forcer le méta-jeu pour arriver dans la campagne. Les initiateurs sont déjà un peu dans le ton. Quoi. Mmh. Et donc, ils approchent de l'hôtel, le fameux hôtel Chelsea. Je pense que là, on n'allait pas changer le nom. Hein. Mais dès le départ de ce chapitre-là, comme pour tous les chapitres, on a voulu déjà extraire quelle ambiance on voulait donner à chacun des chapitres, quelle ambiance déjà il y avait de présente et sur quel point on voulait mettre le doigt. Et comme on vous l'a dit dans le podcast précédent qui concernait l'organisation, on a rajouté notamment des PNJ et pas mal de descriptions, parce que par exemple le chapitre de New York était un chapitre qui était assez peu décrit, du fait que la campagne étant américaine, les gens étaient censés connaître la ville de New York et savoir comment un peu ça se passait. Donc par exemple, on va vous donner des informations comme le fait que l'hôtel Chelsea, c'est un véritable hôtel qui existe et qui est finalement celui qui est utilisé dans Léon. Donc pour vous donner, on va essayer de vous donner le plus de conseils et d'aides possible pour que vous puissiez vous faire une idée rapidement, une idée mentale du scénario et du cas là. Et donc ce qui fait que là, ajout PNJ, ajout lieu à New York, les troquets, ce genre de choses. L'histoire en elle-même avec Jonah Kensington a été. On vous ouvre des pistes. Jonah Kensington peut ne pas être l'employeur un peu bené et un peu terrorisé qu'on pourrait avoir dans une version classique, mais ça peut tout à fait être un être un petit peu, beaucoup plus réfléchi.
Voilà, parce que notamment on s'est posé la question de la disparition des équipes d'investigateurs, parce qu'on peut avoir une éradication totale. Dans ce cas-là, il faut avoir quelqu'un qui puisse relancer l'histoire. Et Jonah Kensington est un de ces personnages clés qui pourrait avoir intérêt à ce que, même si un premier groupe disparaît complètement de la surface de la Terre, dans ce cas-là, lui veut continuer l'aventure et va sélectionner une nouvelle équipe.
C'est le premier contact et il réunit à nouveau une équipe. C'est vrai que on en a un peu partout dans la campagne des gens qui font un peu le lien. Et lui est vraiment capital. Et donc, il va mettre la main à la patte. Enfin, il va envoyer les joueurs sur les premières pistes. Par la suite, les pistes sont des pistes classiques qu'on peut tout à fait, aborder dans le désordre. Que ce soit la police, que ce soit la bibliothécaire, que ce soit la visite de la demeure Carlyle. Ce sont des pistes assez classiques. Mais par contre, on a voulu un peu développer la secte en elle-même pour ne pas en faire juste une bande d'illuminés qui se réunissent juste de façon mensuelle, mais qui ont une vraie, une vraie vie. Voilà, exactement, qui suivent, qui vont pouvoir passer en mode filature, qui vont commencer à s'intéresser à des investigateurs qui commencent à un peu trop fouiner dans leurs petites affaires.
C'est d'ailleurs une remarque générale, je pense qu'on n'aura peut-être pas besoin de le redire pour chacun des chapitres, mais dans tous les lieux que les investigateurs vont visiter, on a décrit les fraternités de chacun de ces lieux de manière gérable par le MJ comme des ressources qui ont une vie propre avec des membres propres et qui va agir de concert s'ils ont des liens avec les autres pays, voilà. Ou de manière autonome s'ils sont complètement isolés dans le plan d'un autre.
C'est très important, et en effet dans la nouvelle mouture on vous propose de les faire communiquer entre eux, c'est-à-dire que des investigateurs qui auront un peu foutu le dawa à New York, quand ils attaqueront, et s'ils foutent la même chose à Londres, quand ils arriveront au Caire, bon, ils seront déjà repérés.
Ils seront attendus.
Alors c'était un point aussi sur lequel on a un petit peu plus travaillé, je pense, en ce qui concerne New York, que les autres chapitres. Parce que, initialement, la secte était vue un peu comme... c'est la dépendance new-yorkaise du culte kényan de la langue sanglante. Et un petit peu, c'est juste une boutique, une officine. Et ils sont un petit peu là, en rôle de faire valoir. Et attendre que les investigateurs arrivent pour les blaster, pour s'impliquer. Donc, c'était un petit peu un rôle trop attentiste. Donc là, on leur donne une dimension un petit peu différente. Et puis, notamment aussi avec la visite de la boutique
Doudou,
qui était un peu dans la version initiale une impasse, parce qu'en fait les investigateurs arrivent à la boutique, se retrouvent confrontés aux zombies, aux chakotas, aux sectateurs, et ensuite une fois qu'ils ont fait le nettoyage, on plie bagage, on s'en va et rien ne se passe. Donc là on a aussi ajouté des éléments supplémentaires de manière à voir des liens entre cette boutique Joujou et les autres sectes, les autres cultes à travers le monde, de manière à fournir des indices supplémentaires aux investigateurs et accroître l'ouverture de la campagne.
C'est là où intervient un des éléments principaux qui fait partie des rajouts, ce sont ce qu'on appellera nous les registres. Mmh. Hein, Yoda, je pense que tu peux un peu détailler l'idée qui sous-tend...
Alors les registres sont étroitement liés au tableau croisé. Comme on avait parlé rapidement dans le dernier podcast, l'idée c'était qu'on voulait absolument rien oublier, et donc on partit du principe qu'un PNJ à New York était susceptible de communiquer avec un PNJ à Londres, et donc ça faisait une piste d'information et qui servait aussi bien à faire vivre la campagne que d'éléments qui allaient servir à renseigner les joueurs. Donc tout ça, ça nous fait une espèce de maillage d'informations que l'on retrouve à travers ces fameux registres qui font partie des nombreuses remarques qu'on a récupérées sur la campagne. On parle régulièrement de registres, d'un envoi, d'un colis à un autre élément de la secte, mais on n'a jamais eu la chance de voir à quoi pouvaient ressembler ces registres. Donc vous en rêviez, tant que l'a fait.
Et puis alors, on veut du registre, de chez registre, hein, parce que
c'est du complet. Hein.
On n'a pas mis juste trois objets limites. Vous avez une foultitude d'objets plus ou moins miteux et avec chacun des remarques et des destinations différentes. Et donc finalement, on a brisé ce qu'il y avait d'originel, en ce sens que tout devait partir de la chambre de l'hôtel Chelsea. Et finalement, ce que dit De Marini, c'est que le chapitre de New York est juste là pour arriver au trésor et au monstre, hein, à la porte, qui était la boutique Joujou. Et une fuite n'est pas forcément justifiée, puisque ils n'ont pas détruit ils ont détruit une grande partie de la secte. Ouais, et donc fuir n'était pas forcément le côté le plus judicieux. Donc là maintenant.
Surtout que c'est la seule menace en fait qu'il y a vraiment sur New York, c'est cette secte. Donc elle n'est quand même pas non plus très, très présente, forcément très dangereuse. Mm. Mais il fallait leur donner une place un peu plus importante que juste des gars au fond d'une boutique qui attendent derrière un paravent, que le paravent s'ouvre et donner un bon coup de pringard à l'investigateur qui se présente.
On en a profité d'ailleurs aussi, comme on l'avait évoqué sur le précédent podcast, avec notamment l'ajout du chapitre Australie, avec un manque cruel de pistes qui menaient vers ce chapitre australien de par les autres, depuis les autres destinations. On a commencé déjà donc à faire des ajouts de pistes et d'indices depuis New York déjà sur la piste australienne afin justement d'avoir quand même une certaine homogénéité en termes de pistes et de liens entre les différents chapitres. Dès le premier chapitre basé à New York.
On simplifie et on complique en ouvrant, c'est-à-dire que chaque chapitre peut mener à tous les autres. Et dès New York, on peut aller à Londres, au Caire, à Shanghai, forcément à Nairobi et aussi en Australie. Mais il est vrai que d'un point de vue géographique et chronologique, la plupart du temps, les investigateurs vont partir vers Londres. Donc on va poursuivre nous-mêmes vers Londres, sachant que ce n'est pas forcément la seconde destination. Londres, qui était un chapitre déjà bien fourni, pas mal décrit dans la version originelle.
Parce que les Américains ne connaissent pas suffisamment le commentaire.
Ils étaient obligés de se décrire pour eux-mêmes Londres. Et par contre, qui avait été un peu, je dirais, gonflé de façon superficielle avec le monstre du derby.
Un point, on en a peut-être pas parlé, mais c'est effectivement donc au niveau du supplément, on trouve, on a découpé les chapitres en pistes principales et en pistes secondaires et en fausses pistes. Mm-hmm. Donc de manière à vraiment avoir les éléments qui sont les éléments essentiels de la campagne et par lesquels les investigateurs doivent absolument passer. Et puis donc on a aussi ces scénarios à part qui eux n'apportent absolument rien à la campagne en elle-même, si ce n'est fournir des petits intermèdes.
Servir du contexte.
Exactement, se servir du contexte et vivre quelque chose, une petite aventure à part, mais qui n'a rien à voir avec la campagne de l'expédition Carmel.
Ce qu'on a fait en sorte, donc, depuis, à partir du deuxième chapitre, le chapitre londonien, de fournir donc une fausse piste pour chaque chapitre, à savoir qu'effectivement, pour celui de Londres, on a décidé en fait de
l'éliminer.
D'éliminer notamment la fausse piste du Garou qui n'apportait rien voici.
Parce qu'on a essayé de garder à peu près, à part pour le chapitre de New York, une vraie fausse piste par chapitre. Et donc là, on a gardé celle qui était la plus probante et celle dont tout le monde se souvenait, c'est-à-dire le tableau de Miles Shipley. Et donc on a voulu conserver, qui restait vraiment, elle, dans l'ambiance londonienne, avec le brouillard et puis le côté un petit peu atroce d'une société un peu artistique, ce genre de choses. Donc le chapitre de Londres, c'est la fondation Pennyhou, c'est Edward Gavigan, c'est le Mickey Mahoney qui fait de l'enquêteur. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. On a pas mal par contre ajouté de descriptifs des quartiers londoniens, de la Londres des années 20.
De l'ambiance.
Voilà.
En Londres, beaucoup de lieux utilisables, exploitables directement à l'État.
On a aussi développé, parce que la fin du chapitre londonien se passe à l'extérieur de Londres. On a enfin situé où se trouvaient
la maison Mistre.
Les sexes et la maison Mistre. Donc vous saurez que ça se situe sur la côte est, au sud-est de l'Angleterre. On a même rajouté un petit chapitre de description pour dire à quoi ressemblait le tour. Et
un guide touristique.
Un petit guide touristique, et vous pouvez même être accompagné de guide, parce que pour un final qui, si on est juste une équipe de 4-5 investigateurs, pourrait paraître démesuré, on vous a fourni la possibilité, qui avait été remontée dans un forum, d'avoir une équipe de bobbies bien entraînée, bien énervée, pour venir à l'assaut du manoir, ce qui fait que vous retrouvez avec déjà deux possibilités, une possibilité en plus de juste y aller. Il y avait la possibilité de se cacher dans le camion de la pyramide bleue, et il y a aussi la possibilité d'aller franco avec le soutien donc des bobbies, qui sont prêts dans leur redingote à donner l'assaut en plein milieu du marais et vers ces espèces d'énergie humaine qui dansent nues sous la lune. On a même aussi, je crois, revu les monstres qui apparaissent à la fin.
Oui, voilà, parce qu'il y avait un certain nombre d'incohérences parmi les caractéristiques et puis aussi les listings de monstres qui étaient disponibles. Il y en avait un petit peu trop, un peu plus que ce que le texte ne prévoyait.
C'était un peu une horde.
Voilà, c'était un peu une horde. Ça faisait quand même beaucoup, beaucoup d'adversaires pour les investigateurs. Donc il y avait un déséquilibre qui était trop important, qui ne se justifiait pas au final.
Tout à fait. Surtout que bon, les investigateurs, autant donc, sur New York, on vous leur mettrait au basque donc la secte avec les Kenyans, les Kenyans new-yorkais. Autant là, le thème était plutôt les Indiens, les Hindous. Les Hindous, il est trop tard. Il est trop tard pour que je me rappelle. Enfin, les gens de... Je me rappelle.
Bon, Vent, tu t'étales trop. On se disperse. On va reprendre pour essayer d'être un peu plus structuré. L'heure, il se fait tard. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a rajouté qui est très important, c'est concernant la fin. Et là, je vais vous passer le spécialiste, Dem, qui va vous parler de notre triangulation.
Voilà, donc effectivement, on a un petit peu modifié la fin des masques de Nyarlathotep. Donc, c'est un peu. C'est la grosse information de la soirée.
Voilà. Attention.
Attention, attention, accrochez-vous. Donc, initialement, la campagne se terminait sur l'explosion de la fusée à Shanghai, mais avec des cérémonies qui se déroulaient en même temps au Kenya et en Australie, point qui n'était absolument pas abordé dans la campagne. Donc, du coup, on s'est dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible.
C'est pas possible!
Et du coup, on a décidé de les développer, et à tel point qu'on a décidé de les développer, on a même décidé de les mettre toutes ensemble. De les mixer et d'ajouter un final encore plus cataclysmique que le final.
Selon la réussite des investigateurs.
Selon la réussite des investigateurs, voilà. Donc on lit en fait les trois interventions et on a ajouté aussi des ouvertures de portail qui permettent de passer d'une scène à une autre. Donc un peu comme une téléportation. Voilà.
Mais bien amené. Hein.
Voilà.
C'est pas brut de fonderie comme ça.
Hein. Non, c'est pas brut de fonderie comme ça. Mais ça permet voilà une intervention des investigateurs plus présente et de faire échouer quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent finalement au moment de la cérémonie finale entre ces trois localisations, de pouvoir intervenir aussi ailleurs et de limiter voire d'annuler complètement la cérémonie.
On a finalement trois niveaux de fin. On peut finir de la campagne de trois bonnes façons, sachant que il y en a une qui est meilleure que les autres, mais chacune peut être finie en ayant détruit un, deux ou trois des portails.
Des degrés de réussite plus ou moins importants. Ce qui était suggéré dans la version précédente.
Avec l'œil de l'œil.
Vraiment, on a enfoncé tout avec vraiment un niveau que l'on peut constater. Carter, toi qui as brillamment rédigé ces visions de fin du monde, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ça, qui est un atout intéressant aussi.
Bah, disons que au niveau des fins du monde, donc on a souhaité fournir quatre styles de fin du monde différentes. Alors bon, ces fins du monde décrivent donc dans l'éventualité où les investigateurs auraient échoué malheureusement, ce qui a logiquement a de fortes chances de se produire, à mon avis, maintenant.
Mais si vous avez une bonne équipe, il n'y a aucune raison.
Donc, effectivement, on a proposé quatre versions de fin du monde, dans un style assez littéraire, on va dire, par chacun d'entre nous.
Sans être pas, moi j'ai rien.
Non plus. Donc après, vous êtes libre de les utiliser, d'en faire un peu ce que vous voulez, de vous en inspirer, afin donc justement de donner un peu plus de saveur et de couleur à votre finale.
La preuve qu'on n'avait pas d'idée préconçue, c'est qu'on n'a pas réussi à converger vers une seule fin du monde. Finalement, on s'est aperçu que chacun pouvait mener la campagne comme il voulait. Quoi.
Alors, on avait tous notre vision.
Voilà, exactement.
Et on avait la possibilité de proposer différentes variations. Donc finalement, on n'a pas boudé notre plaisir.
Non.
Et on vous les a toutes présentées.
Pas de compromis, on fait tout.
Et au-delà de la fin du monde, Carter, il y a aussi les personnages. Pour aller au-delà,
oui.
On va dire, dans l'éventualité d'un après-masque.
Alors, si vous en demandez encore, et si vos investigateurs sont toujours vivants, ou du moins certains...
Enfin, surtout dans l'éventualité malheureuse où ils arriveraient à défaire la cérémonie.
Oui, hein, bien sûr.
Tout à fait. Il joue les plans
de Monsieur N. Donc, effectivement, on a constaté que certains PNJ récurrents pouvaient être réutilisés au-delà de la campagne. Donc, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un grand méchant qui était déjà présent dans les ombres de Yotsotop,
Carl
Stanford, qui est également présent dans cette campagne-là. La reine Nitocris qui devrait ou non être ressuscitée au Caire, vous pouvez également utiliser à bon escient pour poursuivre en fait l'aventure.
Ouais, et là, une grosse campagne, enfin un point qui n'a jamais été exploité aujourd'hui. Hein.
Tout à fait. Monsieur N, bien sûr, hein, puisque bon, ça reste tout de même un dieu, je doute qu'il, si les investigateurs contrecarrent ses plans, restent les bras croisés à ne rien faire.
Caramba,
Et enfin, nous avons également inclus Roger Carlyle, qui potentiellement, comme il est au bord de la folie, pourrait basculer. Et comme il est marqué plus ou moins par le dieu Nyarlathotep, nous avons estimé qu'il pouvait être passé sous le côté obscur, enfin du côté obscur, et servir en fait les desseins de son nouveau maître. Et donc pourquoi pas revenir quelques temps plus tard, reprendre les rênes de l'entreprise, et puis pour étendre en fait les activités du culte à travers le monde.
En fait, on a justifié que un jour ou l'autre, l'une de nos fins, elle arriverait. C'est une question de temps.
On l'avait prédit.
De toute façon, les investigateurs ne font que repousser l'inévitable. Et ça, quand les astres seront propices.
Et pour les mettre, pour vous mettre dans le ton, ce dont on n'a pas parlé, mais on vous propose pour la première fois en France une nouvelle traduction de la fameuse nouvelle de Nyarlathotep de H.P. Lovecraft, réalisée par De Marigny, ici présent.
Merci.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
Et on peut même dire que, au-delà de cette nouvelle, tu nous as préparé une surprise dont on ne peut pas trop parler, mais,
oh là là, mais, c'est bien.
Mais on en entendra parler.
Mais on en entendra parler. Ah. Nous en resterons là alors pour ce soir. Avant d'attaquer les chapitres un par un, en vous détaillant ce qu'on y a ajouté, ce qu'on y a modifié, tout ça, on va vous faire une petite passe qui est assez importante. On pense sur ce dont on vous a parlé dans le précédent podcast sur les masques. Le squelette du scénario, de chacun des scénarios, le squelette qu'on s'est donné, qu'on a respecté sur les 6 chapitres et qui vous permet de vous y retrouver facilement. Donc c'est assez simple, il y a une bonne part de gabarit sans détour, plus le gabarit qu'on s'est fixé nous-mêmes. Donc ça commence par une petite phrase introductive, on attaque assez rapidement Carter par
l'entête sans détour, hein, à savoir donc une petite phrase d'accroche, un petit résumé du chapitre en quelques mots, la partie en jeu donc avec les différentes étapes importantes du chapitre.
Ce qui manquait beaucoup dans la première édition, c'est que là en une vision on a toutes les parties.
Toutes les parties importantes du chapitre, tout à fait. Une partie ensuite ambiance, qui décrit en quelques lignes l'ambiance type.
En quelques lignes, présentation.
Sur la présentation. Une partie récompense, gain de santé mentale et de mythe de Cthulhu. Et enfin, donc, la fameuse fiche technique avec les notations de 1 à 5 que maintenant vous êtes familiarisé avec. Hein.
Après Yoda, on poursuit sur.
Sur la partie, donc là, on va présenter vraiment le chapitre dans son approche littéraire et contexte historique. Grosso modo, on va attaquer une partie de tout ce qui est cadré ambiance, ce qui fait la spécificité et le caractère de chacun des lieux que les PJ vont visiter. Ensuite, on aborde tout ce qui est généralité. Bon, on parle aussi bien de la météo qui fait et puis de l'organisation géographique de la contrée visitée. Ensuite, toujours dans le chapitre, on aborde tout ce qui est des informations que l'on a jugées pratiques, c'est-à-dire tout ce qui va servir aux gardiens pour gérer le quotidien. Donc on parlera aussi bien de tout ce qui est banque, monnaie, la façon dont sont gérées les forces de l'ordre. Ensuite, tous les moyens de communication qui sont disponibles, parce qu'au final, on s'en sert quand même très très régulièrement, et tout ce qui est moyens pour se déplacer, les endroits où sortir et les centres d'intérêt qui forment les villes que l'on va visiter. Une dernière rubrique, toujours transverse, je vais essayer de me développer, mais c'est toute la partie qui est intrinsèque au culte des chapitres concernés. Donc, pour aller dans son monde, vas-y.
Ouais, voilà, donc là, chaque culte, en fait, est décrit. Donc, on met bien évidemment en avant, on va dire, la tête du culte, celui qui le dirige. Et on parle après également des cultistes qui lui sont rattachés. Une partie très importante aussi, c'est que tous les cérémoniales qui sont ceux du culte et qu'on va retrouver, donc soit des cérémoniales hebdomadaires, mensuelles, et puis également les cérémoniales très très spécifiques, notamment pour les trois chapitres, on va dire, finaux, les scènes manuels qui correspondent à l'ouverture du portail.
Là, on les a bien extraits pour que, justement, on est dans une seule partie dédiée au culte. Tout ce qui le concerne n'est pas avoir à aller chercher ça un peu partout dans le scénario en fonction d'une pseudo-chronologie.
Voilà, donc c'était réparti, on va dire, au moment où les investigateurs étaient susceptibles de rencontrer ces cérémonies dans le scénario. Là, effectivement, ça a été extrait, c'est générique, c'est facile d'accès.
On a ensuite donc leur lieu de rencontre, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut les retrouver, des bars, des endroits où ils peuvent, je dirais... zoner, et ce dont on vous a parlé dans le premier podcast, c'est-à-dire les relations avec les autres cultes, s'ils sont en communication directe, la fréquence des rapports que peuvent faire les cultes les uns aux autres.
Et aussi, il y a tous les échanges, on va dire, culturels ou d'œuvres d'art, parce que ça a une grosse part aussi, on va dire, de l'originalité des cultes dans les masques de Nyarlathotep. C'est vraiment cette communication et avec leur diversité,
voilà.
tout ce qu'on peut retrouver. Il y a un petit peu aussi, chaque culte fait du pillage, hein, local, et puis après envoie à un autre culte situé à l'autre bout du monde vraiment ce qui l'intéresse en direct.
L'idée, c'était vraiment de donner un caractère propre au culte de chacun des pays que l'on va visiter pour comprendre comment ils réagissent et comment pensent leur grand gourou.
Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, donc hein, la fameuse partie aventure, en commençant avec donc la partie que devrait-il se passer, où en fait on va, pour chaque chapitre, on va avoir un petit tableau récapitulatif des pistes principales dédiées à ce chapitre.
Les unes les reliées avec les autres.
Voilà.
Comment on arrive ici,
si, et où on va. Où on va, ouais, tout à fait. Suite à ça, donc, on aborde en fait la partie sur les traces de l'expédition Carlyle, où on retrouve en fait des éléments dédiés à l'expédition qu'on peut retrouver en fait dans le chapitre.
Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici?
Tout à fait. Ensuite, on a donc la partie à la poursuite avec Jackson Elias, où là, effectivement, on retrouve tous les éléments liés à Jackson Elias vis-à-vis du chapitre en question, ce qu'il a amené à ce chapitre-là et ce qu'il a pu...
Là, on a vraiment, on a vraiment deux parties qui nous permettent finalement d'avoir deux trames de fond sur toute la campagne, c'est-à-dire soit... Des investigateurs peuvent être sur la piste de l'expédition pour vraiment retracer ce qu'elle a fait, et là ils ont des informations dans la première partie dont tu as parlé, et sinon, si vraiment ils ont pris leur parti de suivre Jackson Elias et de savoir comment il en est arrivé à New York, il est remonté à l'envers, dans cette partie-là on leur explique où est-ce qu'il en était à ce moment-là, quoi.
Alors donc, juste une petite parenthèse justement sur ce début de la rubrique aventure qui va nous intéresser. On a repensé complètement les masques, comme on l'a abordé plusieurs fois dans le podcast précédent, sur la catégorisation en fait de l'aventure. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que dans chacun des chapitres, il y a plusieurs niveaux de pistes, des niveaux qui vont nous intéresser de prime abord, c'est-à-dire des éléments qui sont absolument essentiels pour pouvoir découvrir la campagne. Et donc, on a trois niveaux d'importance dans chacun de ces chapitres. Les premiers qui sont... Comment ça s'appelle ?
Les pistes principales.
Voilà. Donc, il faudra... on ne peut pas passer à côté. Les pistes secondaires, qui apportent du plus et des informations complémentaires, et les pistes bonus.
Les fausses pistes,
c'est ça. Donc, de la même manière, tout ce que vous retrouverez dans les pistes croisées, donc le gros tableau récapitulatif de l'aventure, tous les éléments qui sont que les joueurs devront connaître sont catégorisés comme importants, et le reste des informations, soit c'est de la redondance, soit c'est des informations qui peuvent être jugées superflues.
Donc là, on a attaqué ensuite la partie casting. Comme on vous l'a dit, on a exporté donc les PNJ, qu'on a là aussi trié par leur accointance avec les investigateurs, donc que ce soit des alliés, des ennemis, peut-être même des indépendants, hein, comme il y en a souvent, qui sont pas rattachés à l'un ou l'autre camp. Et on termine par la bleusaille, les figurants, ceux qui sont là pour mourir.
pour servir, pour mourir,
enfin, les petites mains, et enfin, tous ceux qui vont intervenir. Tout ça pour terminer sur...
Voilà, en fait, on a réuni ensuite tous les autres éléments, on va dire un petit peu annexes, mais qui sont liés au mythe. donc toutes les informations sur les ouvrages, sur les sorts, sur les objets, et puis sur les monstres qui peuvent être rencontrés à l'intérieur de ce chapitre, de manière à avoir aussi un unique endroit, toutes ces données, pour que ce soit plus facilement accessible pour le gardien.
De la donnée technique comme du descriptif, enfin, c'est là où on a extrait vraiment les données de tous les ouvrages.
Voilà, donc là effectivement, toutes ces informations n'étaient pas initialement présentes dans la campagne d'origine, et on a récupéré les différents autres suppléments ces données, de manière à pouvoir avoir, là, comme on a dit dans le précédent podcast, l'ensemble des informations pour le gardien, et donc une autonomie complète à travers la campagne. Donc tous les monstres sont décrits, tous les sorts sont décrits, tous les ouvrages également, et tout a été remis à la source, c'est l'édition V6.
Donc tout ça, c'est pour bien présenter le gabarit et la philosophie qu'on s'est imposée pour pouvoir rendre les informations très rapidement accessibles pour faciliter le travail du gardien.
On aborde chaque chapitre de la même façon.
New York.
New York.
New York.
Donc,
Il est tard.
Donc on vous a dit qu'on a un peu restructuré la campagne pour la rendre non linéaire et pour la modifier, mais le fait est que commencer par New York va un peu de soi. Qu'avons-nous changé à New York? On a beaucoup renforcé les New York, notamment on va commencer par les méchants. Les méchants à New York, c'était un peu la boutique Juju, et puis c'est tout, et ceux qui tournaient autour. Ils ont maintenant des réunions pour eux, hein, dans la semaine, dans la journée. Ils ont des endroits pour se réunir. Ils ont d'autres têtes que la seule tête pensante.
Des lieutenants, oui, tout à fait. Oui.
Des cris. Ils ont, ils ont une véritable activité. Et autour de ça, et autour de la boutique Juju, on a voulu redispatcher les indices et faire que la boutique Juju devienne un peu un point central vers lequel mènent d'autres pistes. Des mercenaires importent ou ce genre
de... Oui, c'est ça, en fait. On a vraiment souhaité développer des pistes, puisque dans l'édition d'origine, que ce soit la version boîte ou la version intégrale, révisée, c'était que il y avait un seul indice qui menait à la boutique Juju en début de chapitre. Vos investigateurs passent à côté, et ils peuvent s'asseoir pour redécouvrir la boutique Juju, à moins de faire en sorte que le MJ puisse bidouiller pour les rediriger vers la fameuse boutique. Donc du coup, c'est vrai qu'on a effectué un gros travail de mise à jour de pistes, que ce soit intra-chapitre ou vers d'autres chapitres, comme c'est le cas de l'Australie notamment, qui contenait dans la version précédente que très peu de pistes qui menaient vers ce chapitre-là. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a effectué un gros travail.
On peut aller vers l'Australie déjà, des chapitres de New York.
Tout à fait, ouais.
Donc ça, ce sont les principaux ajouts. La boutique Juju en elle-même est devenue un vrai lieu à part entière et pas une simple impasse vers laquelle on était mené et on ne savait pas trop pourquoi on devait rebondir et aller autre part. C'est devenu vraiment un point de passage qui mène vers le reste de l'aventure.
Voilà, donc il y a différentes choses encore qu'on a développées dans ce chapitre de New York, puisqu'on avait un certain nombre de pistes, notamment il y a comment rencontrer Erika Carlyle.
Oui.
Erika Carlyle, c'était quand même un personnage très important, très central. Il y a beaucoup de choses à trouver aussi dans sa maison.
Ouais.
En revanche, c'est quasiment impossible de la rencontrer.
Ouais.
Donc ça demandait des efforts assez désespérés de la part des investigateurs pour arriver à leur fin. Donc là, on a ajouté d'autres possibilités de la rencontrer pour faciliter l'interaction entre cette personne et les investigateurs, et aussi le fait de pouvoir aller visiter avec ou sans l'accord de Madame Carlyle son coffre-fort.
C'est-à-dire que ce que disait donc Yoda, c'est que les pistes principales, on a essayé de développer autour un petit réseau de pistes vous y menant. Il n'y a plus qu'un seul chemin pour y aller. Et si vous le ratez, ce que disait Carter, vous passez à côté. Là, vous avez toujours la possibilité de rebondir et de revenir sur ce lieu par différents côtés du scénario.
On avait également Emerson Porte, qui est un point par lequel le culte de la langue sanglante fait ses échanges avec le reste du monde. Donc c'était très peu détaillé initialement, alors que pourtant il est conseillé aux investigateurs d'aller visiter l'entrepôt de nuit. Donc on a détaillé en fait plus amplement cet entrepôt Emerson-Import et notamment les locaux, le bureau du directeur.
Et les registres.
Et les registres à Yoda.
Bon, mais écoutez, comme la même philosophie que les tableaux croisés, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va, comme toujours, on renforce les liens et on encourage tous les PJ à se poser des questions sur les différents lieux de livraison du culte. Donc, même si la première fois que les joueurs vont se retrouver devant cet énorme registre de livraison, ils ne vont peut-être pas prendre conscience de toutes les informations qui sont disponibles, mais au fur et à mesure de leur aventure, ils vont s'apercevoir qu'il y a énormément d'infos et que toutes les pistes peuvent les amener d'un côté à l'autre du continent.
On en a profité également, donc, comme la secte donc, avait déjà plusieurs victimes à son actif, hein, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de développement des victimes précédentes du culte, afin justement, au besoin, que ces investigateurs effectuent des recherches sur les précédentes victimes liées au culte et au meurtre rituel, puissent en fait découvrir différents articles de journaux avec différentes identités en fait de personnages qui ont été la cible des membres de cette secte.
Alors bien sûr, hein, à vous de gérer, mais ça peut vous donner ça peut vous ouvrir le scénario vers d'autres scénarios, d'autres horizons et faire le tour des victimes. Il y a aussi donc comme personnage assez central Jonah Kessington, qui dans la première version était juste là pour parler de son employé Jackson Elias, qui là cette fois-ci
et puis donner les informations aussi aux investigateurs.
Hein. Oui.
C'est un peu l'aide de jeu dealer.
Et vous voulez les infos. Alors que là cette fois-ci, ce que tu disais Yoda, c'est qu'il devient un peu le point de backup, le fil rouge, celui qui peut maintenir finalement la cohésion de l'équipe sur toute la campagne.
Bien sûr, c'est un élément qui va être renforcé par d'autres PNJ importants, mais au démarrage, au moins, on s'assure de quelque chose d'un gros transfert d'informations qui vont vous permettre de renseigner vos joueurs et puis peut-être par la suite continuer à faire venir d'autres joueurs si votre groupe venait à disparaître.
Une option. Et c'est vrai que en plus, c'est une personne qui connaissait bien Jackson Elias et qui a une vraie justification à vouloir enquêter sur ce qui s'est passé et à remettre des gens sur le sujet.